Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, midi 15h. Tous les jours, Estelle est encore en vacances. Mais attention, si elle nous écoute, ça se compte en heures maintenant. Il ne reste plus qu'un gros week-end parce que dès lundi prochain, Estelle sera évidemment de retour avec nous sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Ce sera tous les jours entre midi et 15h. J'ai autour de moi aujourd'hui Mao Becker-Granier pour nous donner toutes les infos pour tout comprendre. Thierry Moreau, journaliste. Emmanuel Lancourt, journaliste indépendante. Et Pierre Rondeau, expert en économie du sport. Dans un instant, on va parler de ce changement en cours. Le camembert talonné par la mozzarella dans les ventes de fromage en France. Est-ce que c'est grave? Vous nous appelez au 3216. À 14h30, les immanquables de Mao Becker-Granier avec des affiches anti-vax interdites et le Japon qui incite ces jeunes qui leur recommandent de se mettre à l'alcool. Si, si, elle vous expliquera tout, Mao. Et puis vers 14h50, le quiz d'Estelle avec à gagner aujourd'hui, Mao.
Un tote bag RMC et le très célèbre jeu de société, le Milborn. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3216 touche 4 ou envoyez le mot quiz par SMS au 73216. Quiz par SMS au 73216.
C'est la révolution du jour. Une révolution en marche dans nos habitudes culinaires. Mao, l'heure est grave.
Oui, dans l'incroyable.
Le camembert. Notre camembert est talonné par la mozzarella.
J'aime le sérieux.
Ah ouais, ça me grave. On sent que ça le touche.
Voilà, dans cette incroyable course des ventes de fromage, c'est vrai que le camembert, toujours en tête, hein, je vous rassure, mais pourrait bientôt se faire rattraper par le fromage à raclette et la mozzarella. 43 860 tonnes de camembert ont été vendues en 2021, contre près de 39 000 tonnes pour la raclette et presque autant pour la mozza, donc qui complète le podium. Alors pour l'instant, pas de drame, Rémi. Le camembert est toujours en or, mais les courbes ont tendance à s'inverser. La raclette et la mozza connaissent chaque année un boom plus important, plus 55% de ventes en 5 ans par exemple pour le fromage italien, quand dans le même temps, le camembert a vu ses ventes chuter de 18%. Alors comment ça s'explique? La raison qui semble la plus évidente, c'est d'abord que le plateau de fromage historique est de moins en moins plébiscité chez les jeunes générations. Et la deuxième, c'est que la raclette et surtout la mozzarella bénéficient d'un succès plus large car ils se mettent aussi dans les plats. Qui n'a pas mangé de tomates mozza cet été ? Alors, au-delà de cette question de la mozzarella, d'autres produits et plats venus d'ailleurs connaissent un succès grandissant en France. On le dit très régulièrement, parmi les plats préférés des Français, il y a toujours le couscous, le burger, la pizza et le kebab, lui, se vend extrêmement bien. 390 millions de ventes en 2021. Alors, la gastronomie française est-elle pour autant battue? C'est pas sûr. De nombreux classements évoquent encore le grand succès des plats classiques et avec en tête bien souvent le magret de canard.
Emmanuel, l'été, alors que l'été, franchement, on dit tomate mozzarella, il n'y a rien de mieux qu'un camembert fondu l'été.
Alors là, non mais Rémi, il a des
habitudes culinaires. Aussi, hein, donc c'est à 40 degrés.
Et encore, ils n'ont pas encore parlé du maroilles.
Bon alors, très sérieusement, non, oui, sérieusement.
Alors, moi j'espère que le camembert ne synthétise pas quand même les valeurs de la France, parce que d'abord, il y a plus de 400 fromages en France et que moi je suis une ayatollah du comté.
Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est dans nos habitudes culinaires, on a beau dire ce qu'on veut, les ventes de kebab, j'ai rien contre les kebabs.
Oui, et de pizza.
Mais c'est énorme, quoi. Enfin, et le jambon beurre est menacé.
Non, oui, mais alors, c'est une ouverture à la gastronomie. Alors, gastronomie avec tous les guillemets du monde sur certains plats. Mondial. Mais attends, sérieux, t'as pas un souvenir d'une tomate mozzarella avec de la mozzarella, di bufala, di bufflone, un truc avec un petit brin d'huile d'olive, la bonne assaisonnement, ça fond. Ça n'a pas de goût, la mozzarella? Alors, t'as pas goûté la bonne.
Emmanuel, 95% de la mozzarella qui est mangée, c'est de la mauvaise mozzarella.
Bien sûr, camembert. Et le camembert, tu crois pas que c'est standardisé, le camembert, dans les rayons? Il est en train de payer, le camembert est en train de payer sa standardisation. Mais tu as raison, mais la bonne mozzarella, je suis désolée, c'est un truc de dingue.
Tu compares de l'agro-business, de l'agro-business.
L'agro-business.
Oui, c'est ça. Où on fait, où il y a un soft power italien, ce qu'on appelle le Italian sounding. C'est-à-dire tout ce qui sonne italien aujourd'hui, dans le monde entier, ça a du succès. On parle de jambon de Parme, du spritz, etc. Oui. Ce ne sont que des opérations marketing. 99% de la mozzarella qui est mangée, c'est dégueulasse, c'est spongieux, ça n'a aucun goût. Heureusement, nous avons, nous, en France, non pas 400 sortes de fromage, mais entre 1200 et 1500 différents fromages en France. Voilà. Et on va garder ça parce qu'on aime les fromages de caractère qui puent, qui coulent, qui sont bons et qui ont du goût. Et je pense que de toute façon, la bataille n'est pas perdue parce qu'on gagnera toujours celle-là. Simplement, aujourd'hui, la mozzarella, tu sais que la mozzarella, cette espèce de Italian sounding, c'est-à-dire cette mode du fromage qu'on met partout, ça représente des centaines de milliards d'euros, dont la moitié d'ailleurs vont à la mafia, qui a une mainmise aujourd'hui sur toutes les productions agricoles italiennes que sont la tomate et la mozzarella, et qui gagnent plus d'argent aujourd'hui avec ça.
Donc on parle pas assez de la mafia du
camembert. Eux ont les mains propres.
La mozzarella consommée en France, la plupart est fabriquée en France, et tu parles de gastronomie de qualité en parlant de camembert. Je suis désolé, tu me dis que 90% des mozzarella sont des mozzarella industrialisées. C'est la même chose pour les camemberts. Il y a beaucoup de marques de camembert dont je ne citerai pas le nom, mais ça commence par P, ça se termine par ident, sont aussi totalement standardisés et n'ont aucun goût. Donc ne compare pas le camembert au lait cru merveilleux qui est très peu vendu avec la mozzarella industrielle.
Je parle de l'ensemble des fromages.
La filière camembert,
comparons ce qui est comparable,
la
mozzarella di bufala avec le camembert au lait cru, soit. Ouais. Mais au-delà, pour moi, c'est la vache qui rue ou du Babybel.
On n'a pas parlé du cheddar, qui est un peu la même chose que la mozzarella.
Là où je remets sur cette perte de valeur culinaire et gastronomique, attention à ne pas être trop inquiet et crier au loup tout de suite. On dit le spritz, on dit le kebab, on dit le couscous, mais allez dans les pays originaires, enfin les pays qui sont à l'origine de ces plats.
J'y suis allé, moi j'ai passé 3 semaines en Turquie.
Et par exemple, le kebab français est un kebab français, typiquement français.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Va en Allemagne, qui est le pays
Français, le kebab français.
Ah non, il n'a
rien à voir avec la Turquie ou l'Allemagne.
Quand tu vas en Turquie, tu prends un kebab turc, ça n'a rien à voir avec ça.
Non, mais je pose une question, c'est quoi les caractéristiques du kebab français?
Le pain est différent, les ingrédients sont différents, il y a pas le dogmatique, c'est la tomate oignon, il y a des épices supplémentaires, il y a d'autres choses. Il y a un goût spécifique et particulier pour le kebab français, tout comme le spritz. Je suis désolé, le spritz qu'on boit en France, il n'a aucun goût par rapport au vrai spritz italien.
Enfin, tu es naïf, mais le spritz.
Je suis en train de te dire,
excuse-moi,
c'est un tout l'histoire. Attends, laisse-moi terminer.
Et oui, mais après, je veux te dire quelque chose.
Toute l'histoire de la gastronomie française, la France, pardon, est une terre d'accueil avec des vagues migratoires très importantes depuis toujours, et depuis toujours a accueilli des gens qui ont amené leurs
problèmes avec ça, mais là où tu es d'une naïveté.
Et on s'y est adapté. Les viennoiseries en France, le croissant français, c'est d'origine autrichienne, par exemple. Le kebab français n'a rien à voir avec le kebab importé d'Allemagne.
Est-ce que je peux
le spritz français n'a rien à voir avec le spritz.
Est-ce que je peux te répondre?
La mozzarella française, les salades tomates, enfin, la tomate mozzarella qu'on prend en France sur une terrasse, les Italiens, ils le font pas.
Est-ce que je peux te répondre? L'histoire du spritz, c'est qu'en Paris, qui achète en 2003 la société Aperol. L'Aperol ne fonctionne pas. Ils mettent en place une stratégie très intelligente, marketing mondial, pour que tout le monde achète de l'Aperol. Et aujourd'hui, il y a plus de 400 millions de bouteilles d'Aperol qui sont vendues dans le monde. Donc, ta naïveté sur le fait de dire l'Aperol, c'est un super truc qui va dans les autres pays et qui en plus s'adapte et c'est pas le même sprit et tout ça, c'est du marketing.
C'est une réappropriation culturelle.
C'est des grosses boîtes qui font du pognon pour te vendre ton Aperol.
S'il vous plaît, on va au 32-16 retrouver Daniel. Je savais que ce sujet serait passionnel. Daniel est avec nous donc au 32-16. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
On est dans le Loiret.
Oui, c'est ça.
À Saint-Pierre-sur-Loire.
Non, Saint-Père.
Saint-Père, pardon, sur Loire.
Il y a des fromages là-bas?
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est quoi la spécialité fromagère du coin?
Ah, on n'est pas très loin du Chavignol.
Le
c'est quand même autre chose que la mozzarella. Enfin bref, je me comprends.
De kilomètres quand même.
Voilà. Daniel, on est d'accord. Le Chavignol ou le Camembert, c'est quand même autre chose que la mozzarella.
Ah bah pour un goût français très béret-bagué.
Ah, on vous entend plus, Daniel. Daniel.
Non mais il était en train de dire qu'un Saint-Félicien ou un Saint-Marcelin aussi, ce sont les vrais fromages français on est tous d'accord
mais après,
avec
c'est
ça.
Du chauvinisme.
Mais ça n'empêche.
Voilà, qu'on se comprenne. Tu as totalement raison, Pierre, quand tu dis que la France est tant mieux et heureusement. La France c'est ce qui fait aussi notre singularité et ce qui fait notre histoire. La France a toujours été une terre d'accueil. Tu donnais un exemple très parlant tout à l'heure, mais je t'en donnais un autre. Une des spécialités régionales par chez moi, dans le Nord, il y a la carbonade flamande, etc. Il y a le Welsh. Le Welsh, c'est fait avec quoi?
comme fromage. Avec du cheddar. Avec du cheddar. Et c'est lors on a du mal à remonter aussi loin, mais c'est vrai, certainement durant la guerre de 100 ans, etc. On a des Gallois qui sont venus dans le nord de la France.
Avec leur cheddar.
Et on a adapté leur plat à notre sauce. Et le cheddar, c'est un plat typiquement ch'ti.
Mais je suis d'accord avec toi sur les influences des uns et des autres.
Ce qui m'inquiète juste, c'est lorsque, je vois qu'on vend plus de mozzarella que de camembert. C'est très bien qu'on concocte des plats italiens en France, etc.
Ce que tu dis, c'est que ça a un goût facile et qu'on arrive à une uniformisation des goûts. C'est ça que tu essaies de nous dire. Mais comme le camembert, ce que j'allais dire.
Oui, ça va dans le sens justement d'un auditeur qui nous dit, Pascal, les gens n'ont plus de goût quand vous les voyez dans les supermarchés faire la grimace quand le camembert sent un peu fort et qu'ils achètent de la vache qui rit. Tout est dit, désormais, tout doit être aseptisé, uniforme et surtout sans saveur. Et bien, moi, je dis, vive le camembert, la mozzarella ne sert à rien, c'est insipide.
On a retrouvé Daniel. Priorité au Chavignol, s'il vous plaît. Daniel est avec nous au 32-16. Tu es là, Daniel?
Oui,
pardon,
je te tutoie. Je suis là.
Bon, on est dans le Loiret, je le disais, à Saint-Père-sur-Loire. Daniel, est-ce que ça vous inquiète ce qu'on apprend là sur le fait que aujourd'hui les ventes de camembert sont talonnées par les ventes de mozzarella en France?
Ça m'inquiète. Oui, non, c'est surtout dommage, quoi, hein, parce que quand même le camembert a un goût supérieur par rapport à la mozzarella qui est carrément insipide.
Vous n'avez pas goûté de la bonne?
Oui, peut-être, mais bon, moi, même le camembert qui est pas de la Normandie, qui est un peu plus bas, on va dire, reste un petit peu quand même meilleur goût. Mais après, les vrais camemberts de l'Orne.
Après, c'est une question de goût, c'est une question de goût, mais c'est vrai que dans un pays qui est aussi riche que la France d'un point de vue culinaire, et si on reste sur les fromages, on a une variété incroyable de fromages. Cette massification des ventes de mozzarella, moi, ça m'interpelle
quand
même.
Mais parce que le camembert n'est pas le camembert, il est sur un plateau. Alors, on fait des croquettes de camembert aujourd'hui. Moi, j'ai jamais trouvé ça très bon, mais bon. Alors que la mozzarella, tu la mets en salade, tu la mets en pizza, tu la fais facilement fondre dans un autre plat. Le comté, c'est fait pour ça.
Et le chèvre, nos chèvres, on a combien de variétés de chèvres en France?
Absolument.
Bien sûr.
Et Daniel.
Ouais, ça, une variété de chèvres. Saint-Paul, Valençay, Chavignol. Et j'en oublie.
C'est un choix de qualité, mais on achète un très bon chèvre et tu fais ça avec des tomates et un filet d'olive si tu veux. C'est incomparable, je suis désolé. Après, c'est une question de goût. Mais c'est incomparable avec une mozzarella, même si elle est bonne.
Mais est-ce qu'on va incriminer directement le consommateur qui ne fait pas ce choix, qui ne prend pas cette décision?
Ah non, mais c'est dommage.
Aussi de la part des producteurs, mais c'est un réflexe.
Il y a un réflexe marketing et Thierry le définissait très bien tout à l'heure.
Merci.
C'est très sympa. On prend parce que c'est à la mode. C'est exotique. On se fait une petite salade. Je vais terminer. On se fait une petite salade mozza parce que c'est à la mode, parce que tout le monde le fait. Alors que tu as des dizaines de fromages en France qui apporteraient certainement plus de goût à ta salade.
Question, est-ce que c'est pas un problème d'odeur? Alors moi je suis née sans odorat, donc je ne sais pas ce que c'est qu'un odeur, mais tu sais que l'odeur la plus puante au monde, la deuxième odeur la plus puante au monde, c'est un fromage de chez toi qui s'appelle le Vieux Boulogne.
C'est pas un problème d'odeur parce que par exemple tu peux prendre, pour reprendre ce que disait Rémi, tu peux prendre un chèvre frais par exemple, que tu mets à tremper un peu dans l'huile d'olive pendant une semaine avec des herbes et ensuite tu sers ça au milieu d'une salade de tomates, ça n'a pas une odeur très forte et ça a un goût sublime.
Mais c'est plus de boulot.
Je suis d'accord. C'est un tout
que d'ouvrir le paquet de mozzarella.
Mais il y en a qui sont déjà faits dans de l'huile. Mais pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Rémi, oui, Pierre, tu es victime du marketing mondial.
Tu es victime de la mode. Ça fait des années qu'on en mange de la mozzarella. Je suis sûr que dans le classement,
C'est la même chose avec les sushis. Amène un japonais en France,
interroge-le.
Mais 5% de la gastronomie japonaise.
Je suis bien d'accord avec toi.
C'est que du marketing.
Mais dans ces cas-là, si on se plaint que le camembert soit pas devant, ou alors il est devant, il est talonné, il faut se défendre. Mais et aux producteurs directement de se défendre. Si on dit que c'est compliqué de préparer un camembert par rapport à la mozzarella, que le producteur des camemberts mette en vente des coupes particulières pour faire de la salade tomate camembert.
C'est compliqué de découper un camembert.
Pourquoi dans ces cas-là, le fromage à raclette et la mozzarella ont une croissance plus élevée que la croissance du camembert?
Parce qu'on vend du plastique sous vide, pas cher. On te vend du plastique
sous vide en matière de marketing du côté du camembert.
Les raclettes mais c'est la même chose. Et moi, si vous êtes producteur de raclette, mais de la vraie raclette qui vient de nos régions, mais c'est vrai. Ce qu'on te vend, c'est du produit industriel.
Exactement.
La raclette sous vide.
Et ben, incrimine directement les producteurs, ah, oui. Et incrimine les consommateurs.
Et de la mais pas les consommateurs, genre, je les appelle
alors,
à la mobilisation.
Si on peut incriminer les consommateurs, allez dans les fromageries pour acheter vos fromages, acheter de la vraie bonne raclette qui vient du Jura ou de Savoie, enfin, acheter des vrais fromages. C'est vrai que les goûts s'uniformisent, je crois qu'on peut pas dire le contraire, et que les vrais camemberts, quand tu manges un vrai camembert au lait cru, ça a quand même un certain goût, faut aimer, quoi. Et à cause de marques comme celles que tu as citées, les camemberts se sont complètement uniformisés.
Merci à Daniel d'avoir été avec nous depuis Chavignol, enfin pas loin, Saint-Pierre-sur-Loire dans le Loiret. Joris nous rejoint. Bonjour Joris.
Oui, bonjour.
On est à Toulon dans le Var.
Tout à fait.
On est moins, il doit y en avoir,
c'est,
mais
c'est moins fromage là-bas.
Moins dans une terre de fromage.
Pardon ?
On est moins dans une terre de fromage. Moins.
À Toulon ?
Oui.
Oui, c'est pas.
Bon, c'est pas la spécialité du coin.
La plus riche en fromage, effectivement.
Ceci étant dit, vous êtes crémier ?
Je suis crémier.
Ah,
génial.
Et c'est pas parce qu'on n'est pas dans un territoire de fromage qu'on n'apprécie pas le fromage. Donc j'imagine que vous avez des clients qui sont.
Pour tout dire, alors dans le Var, c'est tellement peu une région fromagère que finalement, ce qu'on trouve, ce sont que des fermiers qui travaillent au lait cru, saisonnés.
Ah, bah super.
Donc, voilà, on a les bons côtés du manque de fromage.
Les ventes de camembert talonnées par celles de mozzarella, ça vous inquiète ou pas?
Alors, pour répondre cash, non. En fait, déjà, il faut prendre conscience que même si le camembert faisait plus 50% de ventes, en fait, ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Simplement parce que qui dit consommation de masse dit production de masse. Et là, on parle bien de camembert en général, pas de camembert AOP de Normandie, pas de camembert fermier. Donc, quand on parle de est-ce qu'on est en train de perdre nos traditions culinaires, si vous voulez, on les a déjà perdues, malheureusement. Oui, tout à l'heure, vous parliez de l'uniformisation des goûts. Il y a des fromages qu'on est en train de perdre dans le sens où finalement, sur certains AOP par exemple, il y a certains fromages où uniquement les industriels produisent et on n'a plus de petits producteurs, si je puis dire. Donc, nos traditions, on les perd d'une manière générale. Les influences étrangères font qu'on les perd, mais ce n'est pas forcément négatif. C'est qu'on tend aussi à d'autres choses. C'est la cuisine, la gastronomie évolue d'une manière générale. Et maintenant, sur l'augmentation de la mozzarella, c'est pareil. C'est mozzarella au sens large. On ne parle pas de mozzarella di bufala. Donc ça veut dire qu'on va l'utiliser dans les pizzas. On va l'utiliser, on parlait de stick mozza, des trucs comme ça. Les fromages à pâte filée sont énormément utilisés dans la cuisine et notamment en street food. Et par contre, à l'inverse un petit peu du camembert, même la mozzarella di bufala, je crois que qui est quand même pas mal industrialisée, hein, y a pas que des choses formidables. Mais je pense qu'il y a eu une communication positive pour amener le consommateur à choisir un petit peu mieux sa mozzarella depuis au moins ces 10 dernières années. Et notamment, peut-être que grâce aux émissions culinaires, style Top Chef, tout ça. Alors qu'à l'inverse, sur le camembert, par exemple, on est envahi dans les grandes surfaces de marques industrielles. Il y a eu de gros débats sur l'AOP camembert de Normandie ces 3 dernières années. Le consommateur lambda n'est pas forcément au fait de tout le débat qu'il y a autour. Et voilà, moi, ni ça me surprend, ni ça m'inquiète réellement. Ce qui sera inquiétant, c'est de perdre des producteurs qui sont aujourd'hui importants.
Mais justement, je suis moins inquiet que vous, parce que vous voyez, moi, j'habite à côté d'un village qui s'appelle Septeuil, dans les Yvelines, et il y a un petit supermarché, et le supermarché a un rayon dans lequel il y a une ferme locale qui s'appelle la ferme de Saint-Corentin, et qui met ses fromages locaux. Alors, il y a du chèvre, il y a un petit peu de fromage de vache, il y a un certain nombre de choses, donc je pense que ça n'est pas forcément perdu, parce que le localisme, le fait qu'on a envie de consommer le plus proche de chez soi, fera qu'on va un peu inversé. Alors, on va peut-être pas complètement inverser la tendance, mais un petit peu l'inverser.
Didier Désert nous rejoint. Bonjour, Didier Désert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC. Vous êtes maître restaurateur, propriétaire de l'ambassade d'Auvergne, rien que le nom me donne faim, à Paris.
On commence à avoir très faim.
Il est 14h21, on mange pas avant.
Vous servez jusqu'à quelle heure?
Alors, on sert encore pour quelques minutes, puis on reprend soir à 19h.
Envoyez-nous quelque chose.
Voilà, donc il faut
nous
rejoindre tout le week-end.
Bon, Didier Désert, je vous pose la question comme à tout le monde. Les ventes de camembert en France, talonnées par celles de mozzarella, est-ce qu'on est en train de perdre nos valeurs culinaires dans ce pays?
Alors, je serais peut-être plus légitime pour vous parler de la consommation de Saint-Nectaire, mais enfin, je vais quand même réagir à ces propos sur le camembert et la mozzarella. Moi, ce que j'entends dans toutes vos discussions, c'est effectivement une question de qualité d'abord, parce que quand on parle de fromages qui ont de tels volumes industriels, finalement, peu importe d'où ils viennent, ce qui est important, c'est la qualité. Et donc, la tradition culinaire française, moi, je suis pas inquiet, contrairement à notre Crénier qui intervenait juste avant moi, elle est totalement vivante. C'est une tradition, mais c'est une mémoire vivante. Nous sommes des milliers de chefs à porter la parole du terroir, du produit, des fonds, des sauces, évidemment dans une cuisine qui a su, au fil des ans, se renouveler, évoluer pour rester en phase avec les attentes des consommateurs. Donc la tradition, elle est vivante. Par contre, à l'évidence, il y a besoin de vigilance, il y a besoin de pédagogie. Je crois qu'il y a besoin de vigilance parce que, effectivement, on peut trouver tout et n'importe quoi dans les rayons des supermarchés ou des commerces. Et donc, il faut regarder ce que l'on achète, acheter des choses qui viennent près de chez nous. Je voyais une polémique sur les réseaux sociaux ce matin sur des pommes vendues chez Carrefour qui venaient du Chili à 4,90€ le kilo. C'est une hérésie de la part de Carrefour des proposer et c'est une bêtise de la part des consommateurs des acheter. Donc, il faut avoir cette forme de vigilance. Et puis, il faut de la pédagogie en permanence. On est, nous, dans un métier de transmission. Je pense que c'est important de rappeler l'importance du goût, de la qualité. Alors que l'on parle de camembert, de mozzarella, finalement, peu importe. Quand l'on parle du bon, du produit artisanal, du produit fait avec une sincérité, du produit authentique. Et ça, c'est la base de notre tradition. Et c'est ce que l'on doit s'engager à faire vivre au quotidien.
Ah oui.
Ça, c'est... Thierry, complètement d'accord, c'est ce que je disais.
Vois les paroles.
Je pense qu'effectivement, il faut être vigilant sur l'industrialisation et la normalisation des goûts, mais il y aura toujours la place, grâce à des gens comme votre intervenant, pour mettre en valeur les petits producteurs locaux, les terroirs locaux, les spécificités et les fromages locaux.
Et je rebondis même sur ce qu'avait dit précédemment le Crémier. Effectivement, si le camembert avait été devant avec largement une croissance de plus de 50, plus de 100%, ça aurait été inquiétant. Parce qu'on aurait eu une normalisation, une standardisation, une industrialisation de sa production qui aurait rendu des produits sans goût totalement inintéressants.
C'est déjà plus ou moins le cas.
C'est déjà plus ou moins le cas. Donc, idem, donc, le camembert devant est un. Voilà, peut-être que la majorité des camemberts vendus ne sont plus des camemberts AOC, AOP ou au lait cru fermier. Idem pour le fromage de raclette, idem pour la mozzarella. Donc c'est pas une question, voilà, qui vend le plus, qui est le fromage le mieux vendu. Ce qui va compter, c'est le goût, c'est le plaisir qu'on a à manger un très bon fromage. Local, effectivement, comme tu l'as dit, Thierry, issu vraiment d'une agriculture raisonnée, bio, humaine, à taille humaine, vraiment. Voilà, il faut miser là-dessus. Donc, c'est pas
Didier Désert.
On a l'impression aujourd'hui, notamment dans le contexte d'inflation, que le prix est un frein et que ça va engager beaucoup de gens à acheter des produits les moins chers.
Ouais.
Il faut être très très vigilant sur le coût réel de ce que l'on achète. Si je prends, je sors du fromage, je pense à un poulet par exemple. Vous voulez manger du poulet, vous avez la possibilité d'acheter du poulet de batterie sous cellophane, en supermarché. Vous avez l'impression que ça coûte pas très cher, mais en fait c'est vraiment pas très bon. Vous achetez un très bon poulet fermier de 2 kilos, 2 kilos et demi sur un marché auprès d'un éleveur. Alors vous allez le payer 20-25€, mais en fait vous allez faire 3 repas pour 4 personnes. Vous allez faire un premier repas avec les suprêmes, le lendemain vous allez faire des filons, et puis la carcasse, vous allez faire un fond pour un risotto.
Et vous avez raison, Didier Désert, parce que ça me fait vraiment penser, et je vais l'avouer très humblement, quand j'habitais encore Paris, il y a quelques années, je suis père de famille, donc par souci pratique, j'habite en banlieue parisienne, j'allais au supermarché faire mes courses, voilà, une fois par semaine, parce que pour des raisons de temps, etc. Et c'est vrai que je me suis mis à l'industrie, comme on dit, la grande distribution, j'achetais tout et n'importe quoi, même si on peut trouver de bons produits en grande distribution, mais vous me comprenez. Aujourd'hui que je suis retourné vivre en province, j'ai la chance d'avoir juste à côté de chez moi, donc c'est facile à pied, un petit marché, même pas un petit marché, des halles. Tous les samedis matins, j'y vais. Et c'est vrai que, étonnamment, moi je me disais, attention mon portefeuille parce que ça va faire mal. Et finalement, je dépense pas plus, parce que les produits sont bien meilleurs, c'est des producteurs locaux. Oui, c'est plus cher à l'achat, mais je n'achète que ce dont j'ai besoin. Et ça aussi, il faut le dire, Didier Désert.
Il se consomme plus longtemps, donc vous ne jetez
exactement,
rien.
Exactement, et je consomme peut-être un peu. On mange peut-être différemment.
Et mieux.
Mais on mange mieux. Et je m'en tire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais moi je l'ai pensé. Je me suis dit, je vais me faire assassiner au marché. Je vais me faire assassiner. Sauf qu'on mange différemment. Didier Désert.
Je crois que c'est ça qui est important, c'est avoir cette vigilance, cette pédagogie, cette capacité à expliquer aux gens que l'on peut manger peut-être moins carné, mais avec un rééquilibrage de nos produits.
C'est ce que je voulais dire.
Un peu moins carné, un peu plus végétal, que l'on peut cuisiner des produits de différentes façons, que l'on peut acheter des produits de qualité et les travailler pour leur goût, et que finalement ça coûte pas plus cher de bien manger. Il faut simplement refuser qui est souvent une évidence, des légumes sous cellophane dans un supermarché, on se demande d'où ils viennent.
Des légumes de saison, on connaît plus les légumes de saison.
Des produits de saison, parce que les produits de saison, évidemment, ils n'ont pas besoin d'avoir pris l'avion ou d'avoir traversé la planète pour arriver sur l'étal du marchand qui vous les propose. Et donc, il y a ces évidences, ce bon sens. On a oublié le bon sens paysan, mais c'est ça, c'est manger les produits que l'on a dans la basse-cour. Alors, à l'échelle d'une personne qui vit dans une grande ville, évidemment, on n'a plus son poulailler ou son petit bout de jardin, mais on peut quand même rester dans cette logique-là de choisir des produits qui ont du sens, qui ont un lien, une authenticité, un lien avec le terroir. Et on s'en portera tous beaucoup mieux, et c'est pas beaucoup plus cher, voire pas du tout plus cher.
Merci beaucoup Didier Désert d'avoir été avec nous, maître restaurateur, propriétaire de l'ambassade d'Auvergne à Paris. Une dernière question Didier Désert, il y avait quoi, donnez-nous un exemple de plat chez vous qu'il y avait ce midi.
Ah ben, l'aligot comme toujours, l'aligot était comme hiver, et d'ailleurs tous les jeudis on fait de l'aligot à volonté, tous les jeudis soir à l'ambassade d'Auvergne d'été, donc l'aligot on le sert avec la saucisse,
avec le canard
qui vient des plaines de Limagne, avec l'agneau de blé de l'Aveyron, voilà, et puis après
il vient d'où votre aligot, votre fromage?
Alors le fromage il vient de l'Aïeul dans l'Aveyron, et on le fait à chaque table, à chaque minute, de la tonne fraîche. Et puis on travaille des produits de saison, des produits frais, enfin tartare de bœuf en ce moment. On s'inspire aussi des cultures, vous parliez de cette perméabilité des cuisines. En ce moment j'ai un magnifique veau de l'Aveyron, mais je le fais un peu comme un vitello tonnato, parce que il fait chaud et on a envie de manger froid, donc on a ce merveilleux veau de l'Aveyron qui est à basse température, tranché fin, avec une petite mayonnaise à l'ail noir.
On arrête là, parce que Pierre Rondeau n'a pas déjeuné. Il est en train de défaillir.
Personne n'a déjeuné.
Merci Didier Désert d'avoir été avec nous, maître restaurateur, propriétaire de l'ambassade d'Auvergne. À Paris, on vous a posé cette question. Les ventes de camembert talonnées par celles de mozzarella, sommes-nous en train de perdre nos valeurs culinaires?
Oui, à 63% pour les internautes.
Vous avez raison, soyons vigilants en tout cas. On n'est peut-être pas en train de les perdre, mais restons méfiants. Allez, dans un instant, ce sont les immanquables de Mao Becker Granier. À tout de suite, c'est Estelle Midi sur RMC jusqu'à 15h.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC, tout de suite à cette heure-là. Elle a travaillé toute la matinée, je l'ai vu, je l'ai observé.
Avec un grand sérieux.
Avec un grand sérieux, c'est une grande professionnelle, c'est Mao Becker-Granier.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et pourquoi a-t-elle travaillé avec acharnement ce matin pour vous je vais te laisser le dire, pour nous trouver les immanquables, ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui dans l'actualité. Et on commence par l'interdiction du jour, Mao.
À Toulouse, un arrêté préfectoral va interdire les affiches hostiles à la vaccination contre le Covid-19. Une décision annoncée par la secrétaire d'État en charge de la citoyenneté suite à une campagne anti-vax menée dans le département en début de semaine. On en avait parlé sur notre antenne. Sur des panneaux publicitaires 4x3 installés sur des terrains privés, les opposants à la vaccination avaient collé des affiches mensongères visant à discréditer l'efficacité du vaccin. L'État a donc décidé de serrer la vis.
Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, Emmanuel?
Excellente nouvelle, on en a parlé sur ce plateau pas plus tard qu'hier. Je vois que nous avons été écoutés, Thierry, toi et moi, puisque nous militions fortement pour que ces affiches... on a une puissance, je ne me rendais pas compte. Pour que ces affiches disparaissent, c'est très bien, parce que c'est quand même de la pure intox, quand même. Ouais. Cette histoire, c'est un truc de fou. Ils t'inventent un conseil scientifique de je ne sais pas quoi pour valider l'affiche.
Disons qu'il y avait des accidents médicaux extrêmement graves, suite au vaccin.
Ouais. Avec une grosse seringue sur les affiches. C'est pour bien te faire peur. Il était
signé du comité.
Mais alors, comme vous en avez parlé hier, peut-être que vous pourrez répondre à ma question. Ça a été validé, c'est sur les terrains privés, mais dans ces cas-là, est-ce que la ville a une
trouble à l'ordre public?
Trouble à l'ordre public, c'est l'argument juridique.
Voilà, en fait, la ville de Toulouse disait ne pas pouvoir intervenir parce que ces panneaux étaient situés sur des terrains privés et que très concrètement
ces panneaux qui existaient déjà ou qui ont été créés pour l'occasion.
Ils ont été créés pour l'occasion.
Je sais pas.
Je crois pas.
Parce que
Excusez-moi, c'est les mêmes panneaux sur lesquels il y avait les affiches anti-Macron à une époque.
Oui, je pensais que tu parlais des affiches. Oui, les affiches ont été créées pour l'occasion.
Les panneaux sont mis en location pour des gens qui veulent diffuser des messages à caractère privé.
Exactement.
Des agences de pub qui les louent.
Exactement. Sur ton terrain, tu peux, si une agence de pub, ton terrain est situé sur un endroit passant, tu peux très bien louer.
Attends, mais ça veut dire que par exemple, admettons, un zoophile veut faire l'apologie de la zoophilie, il peut payer.
Trouble à l'ordre public.
Trouble à l'ordre public ?
Oui. Je pense qu'il y aura un premier filtre qui sera les agences de pub. Qui
pas
peut
de non, mais même si c'est sans agence de pub, tu peux très bien installer un panneau publicitaire sur ton terrain et dire n'importe quoi. Simplement, la limite, c'est la légalité. D'abord, c'était des fake news. Voilà. Donc, c'est une bonne chose de lutter contre les fake news parce que c'était des bêtises qui étaient écrites sur ces affiches. Et donc, ils se sont appuyés sur le trouble à l'ordre public et donc une décision administrative qui font que ça va être enlevé, heureusement.
La faille du jour, Mao.
Attention, si vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, vous pouvez être victime d'un piratage. Je m'explique, Apple a annoncé ce matin avoir détecté une faille de sécurité sur certains de ses modèles. Les iPhone 6 et ultérieurs sont concernés par exemple. Cette faille permettrait en fait aux pirates de prendre le contrôle de votre appareil à distance. Et pour s'en protéger, c'est assez simple, il faut mettre à jour le logiciel d'exploitation, c'est-à-dire télécharger la version 15.6.1 pour les iPhones et tout devrait rentrer dans l'ordre. Apple remercie d'ailleurs les chercheurs anonymes qui ont permis de découvrir cette faille.
Si j'étais machiavélique, je dirais qu'ils l'ont fait exprès. Après, voilà, j'ai
qui
pas
envie.
Parce qu'on sait que Apple, quand on parle d'obsolescence programmée, ne te disent pas que leurs téléphones ont une obsolescence programmée, mais que les mises à jour sont de plus en plus lourdes et que comme ils t'obligent à une mise à jour permanente, au bout d'un certain moment, ton portable devient défaillant pour continuer à durer, à exister normalement.
Voilà, l'autre version pourrait être que ça n'est pas prévu par Apple, mais même si j'entends ce que tu dis, moi je suis peut-être un tout petit peu plus naïve. Et en tout cas, on parle surtout souvent du piratage, des hackers, de manière très négative, mais il y a aussi des gens qui font ça de manière très positive, qui prennent sur leur temps, ils font ça hors des sentiers battus, pour prévenir ce genre de grande boîte qui a un problème. Ils sont tellement bons, ces gens-là, qu'ils les préviennent qu'il y a un problème.
Souvent, et nous, on les prévient. C'est fait à dessein, souvent. Il arrive qu'il y ait des gens vraiment dans un cadre privé qui, par passion informatique, vont hacker des entreprises et ensuite se présentent à elles en disant « Regardez, je vous ai hacké, payez-moi pour que je vous prépare un antivirus. »
De toute façon, il y a toujours des hackers qui seront en avance sur les logiciels et rien n'est pas craquable. Aucun logiciel, aucun programme informatique n'est pas craquable par quelqu'un qui a les données. Donc c'est une sorte de course effectivement au progrès et il y aura toujours ceux qui auront une avance sur les autres.
Mais pour aller dans le sens de Pierre, je ne sais pas, je n'accuse pas, je me pose des questions, c'est tout. Il n'y a pas un iPhone 14 qui sort normalement en septembre.
Mais non, parce que moi, j'ai mon iPhone, j'ai regardé, j'ai la bonne version du logiciel installé et on m'a demandé la mise à jour il y a quelques jours, je l'ai faite et point barre.
Alors, il me semble, là justement, comme ça a été précisé, c'est à partir de l'iPhone 6, il me semble que les iPhone 8, 7, 6, on peut encore les utiliser, mais si on met à jour, ils vont la nouvelle version va être tellement lourde que ça va altérer les performances du téléphone.
Attends, ça m'intéresse, que ce que je tiens dans la main, c'est un iPhone 6 justement, et je vois qu'effectivement on me propose cette. T'as dit que c'était la 15.1.
15.6.
Ouais, c'est ça. Je l'ai pas fait. 15.6.1, il me la propose et je l'ai pas fait encore.
J'ai toutes tes données.
Ok.
Allez, le record du jour.
Le record de production d'énergie solaire a été battu le 7 août à 14h, on l'a appris hier. C'est l'un des aspects positifs d'un ensoleillement fort au cœur de l'été. Et pour vous donner un ordre d'idée, à ce moment précis, le parc solaire français a produit l'équivalent en électricité de 10 centrales nucléaires.
C'est énorme.
Chaque année, la place du solaire dans le mix énergétique français augmente, évidemment, même si elle a augmenté notamment de 30% au premier semestre 2022, mais reste encore peu développée par rapport aux autres énergies. Le solaire représente uniquement 3,6% du total énergétique français aujourd'hui.
Voilà Thierry, il faut on enlève toutes les éoliennes de France, on met des panneaux photovoltaïques sur tous les toits.
Non mais il faut bien. Voilà. D'abord, on s'est aperçu, il y a des études qui montrent qu'il y a une capacité de mettre sur un nombre de toits incalculable des panneaux photovolcaïques. Il y a deux petits.
Et notamment les entreprises, les immeubles, etc. Parce que c'est pas gênant pour le paysage.
Évidemment, on va obliger maintenant les supermarchés à avoir une partie de leur parking la moité je crois en photovoltaïque. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faudra aussi qu'on réfléchisse à l'indépendance des composants, parce que souvent on fait appel à des choses qui sont faites à l'étranger, donc il faut qu'on fabrique nos propres panneaux photovoltaïques. Je dirais que c'est au moins une bonne nouvelle dans le fait qu'on a pas de la canicule, parce que c'est pas une bonne nouvelle la canicule, mais le fait qu'on ait plus d'ensoleillement et plus de chaleur, au moins ça apporte cette bonne nouvelle.
Autant en profiter. Enfin, voilà, malheureusement,
on sera obligé de s'adapter à ce dérèglement climatique, à l'augmentation des jours caniculaires et du taux d'ensoleillement. Alors voilà, si on veut voir le verre à moitié plein, on peut considérer que à travers cette augmentation d'ensoleillement, on a une augmentation de la production énergétique issue du solaire. C'est une bonne chose. Maintenant, voilà, ça reste 3% de la production totale. On est très très loin derrière les Allemands. Enfin, tu me diras que les Allemands, il y a beaucoup de charbon, donc c'est pas non plus un bien qu'ils aient beaucoup d'énergie renouvelable. Mais en tout cas, il faut petit à petit aller vers ça, tout en maintenant un nucléaire stable pour assurer la production énergétique, notamment cet hiver, parce que cet hiver, RTE s'inquiète d'une capacité à garantir l'accès à l'électricité pour beaucoup de ménages. Donc voilà, il faut s'en satisfaire, mais aller plus loin.
Mais tu vois, quand cette loi qui passe, qui va obliger, comme le disait Thierry, les supermarchés, les Intermarchés à couvrir leur toiture de panneaux photovoltaïques et une bonne partie de leur parking, à la fois ça procurera de l'ombre aux voitures et en même temps il y aura ces panneaux qui créeront de l'électricité. J'espère qu'on va pouvoir augmenter ce pourcentage qui est assez faible de 3% que tu dis. Enfin, revenons dans 5 ou 10 ans et voyons où on en est, quoi.
Parce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait qu'on ait une augmentation sans forcément qu'il y ait à côté, comme l'ont fait malheureusement les Allemands, une augmentation pour compenser la perte énergétique du charbon et des énergies.
Parce qu'ils ont fermé le nucléaire, ils sont quand même sous la pression des écolos.
Exactement. Ouais. Et je pense qu'ils vont s'en mordre des doigts et qu'ils continueront.
Ah, ils s'en mordent déjà les doigts.
Ouais, mais ça va continuer. Je pense que ça va s'amplifier dans les années à venir. Le gâchis du jour. Bah là, c'est moins gai parce qu'on parle encore d'environnement.
C'est celui de l'eau. Alors que la France connaît une période importante de stress hydrique et que de nombreuses communes appliquent des restrictions d'eau, l'on apprend qu'environ 1 milliard de mètres cubes d'eau s'échappent chaque année des canalisations parce qu'elles sont trop vieilles. La vétusté de notre réseau responsable de pertes importantes. En 2019, c'est l'équivalent de la consommation annuelle plus de 18 millions de Français.
C'est énorme.
Qui a disparu sous nos pieds faute d'infrastructures modernisées. La moitié des canalisations françaises ont plus de 50 ans et les rénovations sont extrêmement lentes. Moins d'1% d'entre elles sont rénovées chaque année.
C'est un vrai problème parce que ce sont des investissements non visibles. Donc les communes, les communautés de communes, etc. ne mettent pas d'argent là-dedans parce que ça ne se voit pas pour l'électeur qui va voter pour vous. Ça, c'est la première chose. Et donc ça fait 30 ans qu'on n'entretient pas notre réseau. Il suffirait qu'on améliore cette perte d'eau de moitié, qu'on réduise de moitié cette perte d'eau, et nous n'aurions aucun problème d'approvisionnement d'eau. Donc il faut absolument, alors c'est un investissement qui ne se voit pas, mais qu'il faut faire absolument. On a pris un retard monstrueux.
L'eau, elle n'est pas totalement perdue, hein, parce qu'elle retourne quand même dans les sols. Hein.
Elle est juste pas nettoyée, elle est rendue potable. J'étais la semaine dernière en Italie. Là-bas, en Italie, c'est 40% de perdu.
Ah ouais.
Et donc, le phénomène est total et global. Et quand Thierry, tu parles d'investissement invisible, si on faisait une bonne communication et en termes de communication politique, on y arrive en expliquant, en faisant la pédagogie de la réforme et de l'action, les gens se satisferaient d'une telle mesure.
Et après, pourquoi on en parle aujourd'hui? Il faut quand même le dire, Mao, c'est si les tuyaux craquent, c'est parce qu'il y a de la sécheresse, justement, qui fait craquer les tuyaux. C'est pour ça qu'on aurait pu en parler l'année dernière ou l'année d'avant, hein, sauf que là, ça craque.
Oui, complètement, c'est le cas depuis longtemps.
Allez, on termine par l'incitation du jour, Mao.
Sake Viva, c'est le nom d'une drôle incitation venue du Japon, le saké japonais. Le gouvernement a lancé en fait début juillet un concours pour inciter les jeunes à boire davantage d'alcool, ou plus précisément, c'est pas exactement ça, mais en fait ils ont demandé aux jeunes de leur pays de leur donner des idées marketing pour donner envie aux jeunes de boire plus d'alcool. Alors pourquoi cette idée qui peut paraître un peu étrange? Bah tout simplement parce que l'alcool, c'est l'une des ressources fiscales importantes pour l'État japonais, et que depuis le Covid et les confinements, celles-ci ont beaucoup baissé, et au-delà de ça, les nouvelles générations boivent beaucoup moins que leurs aînés au Japon. Cette campagne n'a pas ravi tous les Japonais. Des internautes s'en sont plaints, rappelant les dangers évidents de l'alcool sur la santé. On en parlait sur ce plateau pas plus tard qu'hier.
Ça paraît hallucinant.
C'est une honte. Alors après, les Japonais font ce qu'ils veulent, et moi je vais pas te donner des leçons aux Japonais, mais pour avoir été au Japon de nombreuses fois, parce que j'aime beaucoup ce pays, on voyait encore il y a quelques années, en fin d'après-midi, les ouvriers, enfin les salarymans, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les salariés en costume qui sortent de leur boulot, qui avant de rentrer chez eux vont dans les bars et boivent jusqu'à être ivre-mort et rentrent ivre-mort chez eux. Donc je pense que le problème de l'alcoolisme au Japon est quand même très grave. Inciter les gamins à reprendre la consommation d'alcool est un truc qui me paraît d'une hérésie absolue, d'un non-sens absolu.
Et en plus, l'hypocrisie. On parle de recettes fiscales. Ayant écouté cette très bonne émission qui est Estelle Midi hier, j'ai entendu Thierry Moreau parler du coût de l'alcoolisme par rapport aux gains que rapporte par la fiscalité la vente d'alcool. Et si je ne dis pas de bêtises, on était autour de 112 milliards pour la France, d'euros de coûts liés à l'alcoolisme. Donc quand les Japonais parlent de recettes fiscales et d'inciter à la vente d'alcool pour avoir des gains fiscaux, et ils ne mettent pas sur la balance et ils ne comprennent pas à cela, combien ça va coûter exactement en conséquence liée à la consommation d'alcool. Donc je trouve ça d'une hypocrisie folle et que le gouvernement directement, imaginez seulement en France, est-ce que vous pouvez imaginer qu'en France, un jour le gouvernement dise donnez-nous des idées pour inciter à la consommation d'alcool chez les jeunes. Je trouve ça mais d'une aberration, comme tu l'as dit Thierry, ces Japonais ils font ce qu'ils veulent, mais je trouve ça mais vraiment d'une hypocrisie.
L'alcool au Japon n'est pas considéré comme en France. Là, on est complètement sur quelque chose de culturel. Il y a des pubs absolument partout au Japon pour l'alcool. Et c'est pas considéré comme en France parce que l'alcool, c'est un élément de socialisation hyper important. Et quelqu'un qui boit pas, déjà en France, c'est ça. Moi, je le vis, mais alors au Japon, c'est 10 fois pire. Quelqu'un qui ne boit pas n'est pas un bon camarade. Et c'est vraiment complètement inscrit dans les gènes. Et c'est pour ça que le fisc se gêne absolument pas. Et que c'est les jeunes qui font de la résistance aujourd'hui parce qu'ils ont pas envie qu'on les force à boire.
Hier, on abordait la question en France, puisqu'on apprenait que les Français restaient les champions du monde de consommation de rosé, et on vous posait cette question, est-ce qu'on a un problème avec l'alcool en France ? Alors tu dis qu'au Japon c'est peut-être encore pire, enfin on a quand même aussi, nous, un vrai problème à ce niveau-là, parce que je suis désolé, tu vois les chiffres, on est les 6e plus gros consommateurs des pays de l'OCDE, en France, dès qu'on parle d'alcool, on sourit, on dit, allez, bon, c'est pas bien grave. Non mais c'est vrai qu'on a toujours...
Et puis encore une fois, au Japon...
sur un ton plus léger, et hier on voyait, tiens là, il y a une dépêche qui vient de tomber, sécurité routière, la hausse de la mortalité en juillet, le nombre de personnes décédées en juillet sur les routes de France métropolitaine a augmenté de 8% par rapport au même mois de 2019 avant Covid, c'est ça qui est comparable. Alors, c'est pas tous des questions de débriété au volant. Ceci étant dit, hier, Mao nous expliquait qu'il y avait quand même 57% des Français, si c'est bien, je me souviens, qui étaient prêts, qui disaient oui, bah, cet été, il pourrait peut-être m'arriver de produire un petit peu en dépassant un petit peu les seuils. On a un problème avec ça.
Et là où tu te trompes, Emmanuel, c'est que la nouvelle génération des Japonais ne veut plus justement voir ces salariés qui, après
c'est
le travail...
C'est exactement ce que j'ai dit. Les jeunes ne veulent plus boire.
Savine avec du saké jusqu'à être
ivre. Les jeunes ne veulent plus... Il faut savoir que les bières japonaises sont deux fois moins chargées que les bières françaises. Donc, quand un Japonais boit deux bières, ça correspond à une bière chez nous. Mmh. Et c'est vrai qu'ils boivent, mais tout au long de la journée. Hein. C'est vraiment pas que le soir. C'est vrai, il y a ces bars, mais c'est tout au long de la journée, les Japonais. Hein.
Allez, Mao, on termine avec les horaires du jour.
À Strasbourg, la mairie envisage de fermer les musées de sa ville chaque jour entre 13h et 14h. Certains établissements vont même fermer 2 jours par semaine à la rentrée pour des raisons budgétaires et faute de personnel. Un mauvais signal envoyé, selon l'opposition, l'année où Strasbourg est capitale mondiale du livre de l'UNESCO.
Particulier quand même.
C'est compliqué, oui.
C'est toujours la culture qui trinque. Hein.
Mais c'est même grave, je trouve, que le ministre de la Culture ne soit pas directement concerné par ce problème. La culture va...
Interpelle là.
Oui, je l'interpelle. J'interpelle notre ministre de la Culture. Il faut vraiment se battre pour défendre et pour sacraliser, pour sanctuariser le budget de la culture, le budget dédié à la culture, soutenir les villes, soutenir les lieux culturels. Se dire que on va fermer les musées à Strasbourg 1 heure par jour ou 2 fois par semaine pour des raisons budgétaires, donc que le budget alloué à la culture soit une variable d'ajustement, c'est grave.
Est-ce qu'on fermerait un gymnase, tu vois, 2 fois par semaine en disant aux gens non, vous venez pas faire du handball ou du basket, le gymnase il est fermé le lundi et le mardi maintenant. Ça n'arriverait jamais.
Oui, bien sûr.
Ça n'arriverait pas.
Je trouve ça que ça n'a pas une question d'importance majeure et nationale parce qu'on ne parle que de la ville de Strasbourg et que ce soit décidé uniquement par la municipalité de Strasbourg. Mais au-delà de ça, c'est quand même le simple. Et en plus, que ce soit la capitale européenne de la culture et que cette année on annonce la fermeture des musées, le message qui est véhiculé. Ouais.
Dramatique.
Ça sera la capitale mondiale du livre de l'UNESCO en 2024. Je m'étais trompé.
D'accord. Ouais,
mais entre 13h et 14h uniquement. Allez, dans un instant, comme tous les jours à cette heure-là sur RMC, il est bientôt 14h50. On va jouer ensemble deux candidats parmi vous, une série de questions d'actualité. Vous pouvez choisir de tenir soit avec Thierry, soit avec Pierre, soit avec Emmanuel. Et puis, il y a un petit cadeau à gagner.
On va gagner pour la dernière fois de la semaine le fameux tote bag RMC et surtout le jeu de société, le 1000 bornes. Et surtout de passer un bon moment avec nous. Si vous voulez encore vous inscrire, c'est le 32-16 touche 4 ou le mot quiz 732-16 par SMS. Quiz 732-16.
C'est tout de suite, c'est Estelle Midi sur RMC jusqu'à 15h.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC. Tout de suite, on joue ensemble.
RMC, Estelle Midi.
Le quiz d'Estelle.
Et pour jouer avec nous au quiz d'Estelle, il y a d'abord Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC. Vous nous appelez depuis les Pyrénées-Atlantiques.
C'est ça.
Depuis Arthez, c'est ça, Arthez,
oui,
hein, de Béarn. Il y a l'accent, il y a tout, il y a le nom de la commune. Combien d'habitants Arthez de Béarn?
Pratiquement 2000.
Pratiquement 2000. On est loin de... Je pose une question. On est loin de Pau ou pas?
Non, 30 minutes.
Bah, j'ai des souvenirs. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Pau, mais j'ai.
Oui, un peu, ouais.
Ah, magnifique.
Je suis dans le Béarn depuis quelques temps.
Ah, magnifique le Béarn. Moi, je enfin bref, j'adore.
Ah, c'est magnifique. La plus belle région de France.
Oui, bien sûr. Sophie, vous faites quoi dans la vie?
Je suis secrétaire.
Très bien. Il y a Pierre qui sera face à vous, Sophie. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
On est dans l'Ain cette fois.
Oui, on est dans l'Ain, à côté de Bourg-en-Bresse.
À côté de Bourg-en-Bresse, à Confrancon, c'est ça?
Exactement.
Très bien. Vous faites quoi dans la vie?
Moi, je suis professeur.
Professeur, très bien. Lycée, collège?
Collège.
Collège, très bien. Bah, la rentrée approche.
Exactement.
Tout doucement. Pierre, Sophie, vous connaissez le principe. Je vais vous poser une question, une série de questions d'actualité. Et oui. Pour jouer, eh bien, vous avez le choix de choisir l'un de ceux qui se trouvent autour de moi. Donc, Sophie, vous voulez jouer avec qui?
Avec Emmanuel.
D'accord.
Bonjour, Sophie.
Un duo.
Bonjour.
Féminin. Ça sera,
oui,
Sophie. Emmanuel, même question pour Pierre.
Eh ben nous, un duel de Pierre.
Un duel, ça sera Pierre avec Pierre.
Allez, Pierre.
Et Thierry sera évidemment l'arbitre de cette rencontre, de ce match qui débute tout de suite. Et la première question, c'est une question auditeur, donc il n'y a que Sophie ou Pierre qui peut répondre. On y va. Quel célèbre peintre a vu l'un de ses tableaux retrouvé lors d'une saisie de drogue en Irak?
Van Gogh, Picasso.
Picasso, c'est Pierre qui a dit Picasso. C'est un point pour Pierre, effectivement. Pablo Picasso, le tableau qui n'a pas encore été authentifié, est estimé à plusieurs millions de dollars. Question culture générale, désormais tout le monde joue. Quelle est la capitale du Pérou?
Lima.
Lama.
Lima. Il y a des lamas. Il y a des lamas.
Il y a des lamas, mais c'est Lima.
Moi, j'ai eu la bonne réponse, mais vous, c'était plus drôle.
Mais c'est un point.
C'est point, alors.
Un point pour,
Sophie.
Pour Sophie, grâce à Emmanuel.
Merci, Emmanuel.
Question cinéma. Quel film d'animation détient le record du plus gros succès au box-office?
Le Roi
Lion. La Reine des Neiges. Encanto.
La Reine des Neiges.
Avatar.
Ça fait deux points pour Sophie.
Je peux la chanter en entier,
encore Emmanuel.
J'ai jamais vu.
T'as jamais vu? Mais c'est parce que t'as pas d'enfant.
Allez, question musique. À quel chanteur britannique Britney Spears va-t-elle avec, pardon, quel chanteur britannique Britney Spears va-t-elle faire un duo pour
Ed Sheeran?
Non, pour une nouvelle chanson.
Elton John.
Elton John. Égalisation sur cette air d'Elton John pour Pierre, grâce à Pierre. Ça fait deux partout. Attention, elle est importante, c'est la question charade. Elle vaut deux points. Vous connaissez le principe? Pierre, Sophie, vous pouvez répondre à tout moment. Je parle de Pierre, notre candidat au 32-16. Hein. Vous pouvez répondre à tout moment. En revanche, Pierre Rondeau et Emmanuel Lancourt, vous attendez que j'ai dit mon tout pour répondre. Mon premier est l'ancienne monnaie française. Les chiens remuent mon deuxième lorsqu'ils sont contents. Mon troisième est une note de musique. Mon quatrième est une forme de tresse qu'on fait dans les cheveux. Mon cinquième est un rongeur. Mon tout est un célèbre chanteur. Qui est-il?
Francis Lai.
Non.
Non.
Frank Sinatra.
Frank Sinatra. Deux points supplémentaires pour Sophie grâce à Emmanuel. Eh oui. L'ancienne monnaie française. Bah, le franc.
Le franc. Ouais.
Les chiens remuent mon deuxième lorsqu'ils sont contents. Que. Franc que. Mon troisième est une note de musique si. Mon quatrième est une forme de tresse nat.
Mon cinquième est un rongeur. Rat. Frank Sinatra. C'était la bonne réponse. Allez, on continue à jouer ensemble. Ça fait 4-2 hein, pour Sophie. Qui a dit « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre ».
C'est un intellectuel, c'est un...
Quelqu'un qui est vivant ?
C'était un intellectuel un chef d'État. La vie est un ministère qu'il faut vivre et non un problème
Winston
à résoudre.
Churchill ?
Non.
Churchill, ouais.
Non.
Non.
De Gaulle ? Non. Ouais, je l'ai dit. Il est décédé, hein, je l'ai dit.
Français ?
Non.
Reagan ?
On est en Asie.
En Asie ?
La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. On est en Inde ?
Gandhi.
Gandhi. Oui, j'ai entendu Pierre dire Gandhi. Hein.
Oui.
Ouais, j'ai entendu Pierre dire Gandhi. Donc ça fait 4-3, le Mahatma Gandhi. Allez, dernière question. Quel célèbre joueur de basket va voir un de ses anciens maillots être vendu aux enchères en septembre ?
Michael Jordan.
Jordan ?
Wow !
Pierre, il est revenu.
Ça fait 4 partout.
4-4.
Alors la question.
C'est serré.
Qui a question ? Qui va vous départager ?
Passeport, hein ?
C'est une question RMC.
Wow.
Après Estelle Midi.
Ouais, c'est le Moscato Show.
Il y a une émission qui suit.
Oui.
Normalement, c'est le Moscato Show. Oui. Vous connaissez, Sophie ?
Oui, moi,
Pierre.
Oui.
Bon.
Oui.
Quelqu'un vient de s'asseoir à côté de moi, c'est de la radio, vous ne pouvez pas le voir. Il fait partie de l'émission. C'est qui ?
C'est Pierre Dorian ?
Non. Ah, mais toi, tu le vois, t'as pas
besoin de
répondre.
C'était une question pour Sophie et Pierre.
Non, mais
il est bête. Il est bête. Oui. Et il va être rejoint. Mais non, mais pas toi.
C'est une question pour Pierre.
Pour Pierre et Sophie. Il est bête.
Faut que tu inventes une autre question.
Alors, j'ai une autre question. S'il vous plaît, allez, on va perdre du temps là. J'ai une autre question. Pierre va être rejoint dans quelques instants. Certainement, elle est là. Elle est là aujourd'hui par une femme, une ancienne. Non, mais tais-toi. Non, mais vous êtes bête. Mais vous êtes complètement abrutis. Excusez-moi. Donc Pierre va être rejoint. Taisez-vous. Coupez-leur leur micro. Sophie, Pierre, il va être rejoint par son comparse.
Mais Moscato ?
Non. il ne trouve pas le troisième geluron. Il y a Marie-Zévon GP, il y a Pierre Dorian, il y a Adrien. Ils ne le connaissent pas. Ouais, ils ne le connaissent
Adrien,
pas.
Adrien. Oui.
Non, ils ne le connaissent pas.
Adrien quelque chose.
Bon, c'est pas grave.
Quelle est l'émission qui a après
non,
le Moscato
Show ? Non, tais-toi, tu m'as trompé énervé aujourd'hui. Allez, le Moscato Show, donnez-moi les horaires au moins.
15h-18h.
Ouais, 15h-18h, c'était tiré par les cheveux, mais c'est Pierre.
Désolée, Sophie.
Désolée, Sophie.
Pardon.
Allez, désolée, Sophie.
C'est pour Pierre, je lui donne, mais alors vraiment, vous deux, je ne veux plus vous revoir avant au moins la semaine prochaine. Pierre Dorian est avec
bonjour à tous.
Adrien et Guam à te rejoindre.
Oui, alors.
Maryse et mon GP.
On parle beaucoup de Maryse, d'Adrien, mais j'aimerais moi, surtout savoir qui est ce Francis Lay dont vous avez
Francis,
parlé.
Mais si, Francis Lay. Mais bien sûr. Mais tu vois qui
c'est, bien là, sûr, je vois bien qui c'est.
Voilà.
Allez. Absolument.
Intégral Sport en attendant le retour du Moscato Show.
Intégral Sport de 15h à 18h avec ce soir une superbe épreuve à suivre au championnat d'Europe d'athlé. C'est le 400 mètres haies avec l'une des grandes stars de l'athlétisme, Karsten Warholm, et trois Français, dont Wilfried Apio qui a une vraie chance de médaille. Et puis aujourd'hui, eh bien, vous allez entendre Christophe Galtier s'exprimer sur le clash entre Neymar et Mbappé. Alors, il a tenu à minimiser l'affaire. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il va être capable de gérer ce clash entre Neymar et Mbappé? C'est tout de suite au 32-16. On vous attend bien sûr dans l'Intégral Sport avec la Dream Team. Et on est ensemble jusqu'à 18h. Vincent Moscato viendra nous faire un clin d'œil dans cette émission.
Ah, formidable. Et n'oubliez pas que dès lundi, c'est le grand retour d'Estelle Denis sur RMC, RMC Story. Estelle Midi, ce sera dès midi jusqu'à 15h à lundi.
RMC Intégral Sport.